Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal, des dizaines de familles de la chefferie de Mulundu dans la province de Lomami ont perdu leurs habitations par les feux de brousse. L'administrateur du territoire de Lwilou lance un SOS pour une assistance humanitaire à ces sinistrés. Plus de 250 personnes déplacées ont été arrêtées au cours du premier semestre de cette année dans la province du Nord Kivu à cause notamment de l'absence de pièces d'identité. Alerte est lancée par un collectif d'avocats qui affirme que cette situation met en péril la sécurité de ces personnes. Xiaowei Zhang, journaliste au desk français de la télévision chinoise CGTN, est notre invitée. Elle nous parle de la 9e édition du Forum Chine-Afrique qui s'est clôturée ce vendredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal part de la province de Lomami. Plus de 100 familles de quelques localités de la chefferie de Mulundu, territoire de Lwilou, vivent sans abri après l'incendie de leurs habitations par le feu de brousse d'origine inconnue. L'administrateur du territoire de Lwilou plaide pour une assistance humanitaire en faveur de ces familles sinistrées. Des précisions avec Esther Dalafina.
Les sources sur place affirment que plusieurs habitants du village de Chibungu dans la chefferie de Mulundu sont sans abri depuis bientôt un mois après l'incendie par un feu de brousse d'une trentaine de maisons. Dans la même chefferie, cette fois-ci dans la localité d'Engo Ibadolite à Bouinana, les habitants ne savent à quel sens se vouer pendant cette période de rentrée scolaire. Certains habitants ont été accueillis dans des familles d'accueil où ils vivent sans aucune assistance. Les semences gardées pour le semis à la saison culturelle ont été consumés par le feu. Les habitants demandent aux organisations internationales et aux hommes de bonne volonté de leur venir en aide avec les outils aratoires et les semences. À Kachisungu, les habitants de la localité de Kabuya et ceux de Musenge n'ont pas été épargnés par le feu de brousse. Même situation dans les territoires de Kabinda où quelques maisons sont parties en fumée dans la localité de Lufanka jeudi dernier. Contacté, l'administrateur du territoire de Lwilou sollicite une assistance humanitaire en faveur des familles sinistrées. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Pendant ce temps au Nord Kivu, une semaine après les fortes pluies qui ont frappé la chefferie de Watalinga dans les territoires de Beni, le responsable de cette chefferie dresse le bilan définitif des 2 morts et des 2000 maisons détruites. Aussi, 3 groupements sont isolés du reste de la région en raison de l'impraticabilité de la route principale qui les relie. Le Mwami Sambili Pascal Bamukoka appelle à une assistance d'urgence du gouvernement et des partenaires humanitaires. Il décrit la situation au téléphone de Marc Marofimbo.
La situation actuelle est très catastrophique. Au niveau même des ménages, les gens ne savent plus où dormir. Notre route qui relie mes 3 groupements, qui est déjà impraticable. Actuellement, la population ne sait même plus comment faire l'échappe. La vie humanitaire est tellement compliqué pour l'instant suite à cette catastrophe posée par une série de pluies diluviennes. Nous avons déjà informé notre hiérarchie, le territoire, la province et même le niveau central. Ça serait mieux que notre hiérarchie envoie même une organisation qui va venir pour une intervention d'urgence afin de voir comment sauver la situation qui se passe actuellement dans la chefferie de Watalinga. C'est une affaire de plus de 2000 quelques de maisons endommagées. C'est terrible. C'est comme ça que nous sommes en train de lancer un SOS pour que si possible, si même le gouvernement à tous les niveaux et même les humanitaires qui nous viennent en aide, sinon la situation que nous traversons est tellement compliquée.
Notez que même les écoles n'ont pas repris dans cette région. Clôture hier à Kasumbalesa dans Katanga de la 2e édition du Salon de l'agriculture. Pendant 2 jours, les participants, parmi lesquels les membres de la société civile, ceux de l'ANADEC, de l'ANAPI et les sociétés qui vendent les semences, ont réfléchi sur le thème « Mécanisation agricole et transformation agroalimentaire, deux leviers pour le développement de Kasumbalesa ». D'après la Fédération des entreprises du Congo FEC Kasumbalesa, initiatrice de cette rencontre, l'objectif est de chercher une alternative à la dépendance de la ville de Kasumbalesa vis-à-vis de la Zambie. D'autres détails avec le secrétaire administratif de la FEC locale, Edouard Kayoum. Mba, joint par Jean Gandou.
L'objectif ici, c'est de promouvoir l'agriculture. Voudrions, comme la ville dépend totalement de la Zambie, communiquer avec la population et les commerçants pour que les gens s'investissent dans l'agriculture. Les résultats sont bons parce que déjà, dès la première édition jusqu'à maintenant. Là, il y a augmentation du nombre d'acteurs dans les secteurs agricoles, mais un peu aussi d'investissement. Nous aurons beaucoup plus besoin de l'apport de l'État congolais, par exemple, sur le plan de l'exonération totale, pour ne pas dire de l'exemption de tous les frais au niveau de la frontière, afin que les intrants agricoles passent librement, sans contrainte. C'est ça le casse-tête pour le moment. Parce qu'on ne peut développer l'agriculture qu'avec des machines, et même, il faut transformer. Il en est de même que pour bien développer, nous devons être soutenus par le gouvernement. Souvent, ces soutiens-là n'arrivent toujours pas à destination.
Comme annoncé dans les titres, au Nord Kivu, un collectif d'avocats a enregistré plus de 250 cas d'arrestation de personnes déplacées entre janvier et juillet de cette année. Ces arrestations ont lieu notamment à Goma et dans les territoires de Nyiragongo, Lubero et Beni. Motivés par l'absence des pièces d'identité ou par des accusations de collaboration avec le M23, ces arrestations mettent en péril la sécurité et les droits fondamentaux de ces personnes déjà fragilisées par les conflits. Le point avec Rosalie Zawadi.
Alertés par le nombre croissant des déplacés détenus pour absence des pièces d'identité, quelques avocats se sont mis ensemble pour suivre leur dossier. Sans pièces d'identité, ces déplacés ont été accusés d'être des collaborateurs des rebelles. Avec les animateurs de la société civile, ces avocats ont réussi à obtenir la liberté de plusieurs déplacés, explique Maître Franck Bisika, avocat au barreau de Goma.
À Goma, dans le territoire du Nyiragongo, nous avions eu également à identifier 256 cas d'arrestation dans l'intervalle de ces 7 mois. Et c'est seulement 187 personnes qui ont été libérées de par l'intervention des différentes parties prenantes. Mais au-delà de ça, nous avions également enregistré les cas d'arrestation dans le territoire de Lubero, ville de Beni, ville de Butembo, qui constituait un nombre important de 57 victimes.
Maître Bisika ajoute que l'assistance judiciaire est gratuite. Il encourage les chefs de camp à identifier tous les déplacés dépourvus des papiers afin de faciliter les démarches d'obtention d'une attestation des pertes des pièces, ce en attendant la délivrance des cartes. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Parlons de l'argent public perçu par les miliciens Mobondo au village Parking BRB dans la province du Kwilu. En effet, cette province est en train de perdre beaucoup d'argent, dénonce le directeur général de la Régie générale des recettes du Kwilu. Jean Ludengue affirme que tous les agents ont été retirés de ses postes à cause de la présence de ces miliciens qui insécurisent la population. Préoccupé, il en appelle à la responsabilité des autorités sécuritaires pour restaurer la paix dans ces coins. Des explications avec Irène Boum.
Selon les responsables de la Direction générale des recettes du Kwilu de Jerek, c'est depuis plusieurs semaines que les frais dus à la taxe de l'évacuation des produits agricoles sont perçus par les miliciens Mobondo. Les faits se déroulent précisément au village Parking BRB, situé au secteur de Wamba dans les territoires de Bagata. Le directeur Jean Lundenge affirme avoir complètement perdu le contrôle des postes de péage se trouvant dans ce coin de la province du Kwilu à la suite de l'insécurité. Du coup, c'est la province qui perd jusqu'à 5 millions de francs congolais selon les assignations mensuelles. Jean Lundenge appelle au rétablissement de la paix pour la reprise des activités de la régie.
Nous n'avons plus le pouvoir de gérer ces postes et par le fait qu'il y a l'insécurité, je ne peux pas aussi exposer nos agents. J'ai demandé que les quelques agents qui sont restés là-bas puissent regagner Fatounou en attendant que la paix revienne. La province est en train de perdre beaucoup d'argent en termes de recettes. Nous avons toujours demandé que la paix revienne, que la police et la FARDC puissent sécuriser normalement la population de ce coin.
Rappelons que les miliciens Mobondo sont actifs dans la partie frontalière entre les territoires de Bagata et de Kenge, où ils tracassent les voyageurs, rapportent plusieurs sources. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et à Ituri, 1051 enfants sont sortis des groupes armés depuis le début de cette année dans cette province où l'insécurité persiste, notamment dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa. Ces chiffres ont été rendus publics vendredi par le secrétariat technique du bureau pour le volontariat au service de l'enfant et de la santé BVS. C'est à l'issue d'un atelier interprovincial sur le recrutement et l'utilisation des enfants au sein des groupes armés. Ces acteurs recommandent à l'État d'accélérer les processus de prise en charge des miliciens ainsi que du PDDRCS enfants. Les comptes rendus d'Ezekiel Mousalia.
Pendant 2 jours, une cinquantaine d'acteurs impliqués dans la lutte contre l'utilisation et l'enrôlement des enfants dans les forces et groupes armés venus du Maniema, Nord et Sud Kivu, du Tanganyika et de l'Ituri se sont penchés sur la situation générale des milliers d'enfants encore actifs dans des groupes armés. Selon Alex Bisengo, membre du secrétariat technique et du bureau pour le volontariat au service de l'enfant et de la santé BVS, sur plus de 7000 enfants enregistrés dans 23 groupes armés en Ituri, 1050 sont sortis cette année.
Le nombre de groupes armés est estimé à 23, dont 7000 enfants présumés. 751 ont été déjà sortis et à cela s'ajoute le 300 quelques qui venaient d'être retirés la semaine passée.
Des avancées significatives mais qui nécessitent encore un appui des partenaires pour libérer tous les enfants qui sont encore au sein des groupes armés en province, confie Irène Vaweka, conseillère du gouverneur en charge de la jeunesse.
C'est quelque chose à féliciter que la province de l'Ituri est très avancée. Il y a beaucoup de choses à faire pour que des actions concrètes soient menées.
Le représentant national du PDDRCS salue la tenue de cet atelier qui a été appuyé par la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO. Il promet de transmettre toutes ses recommandations à sa hiérarchie. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Désormais, n'envoyer en prison que les condamnés en justice. C'est ce qu'encourage la société civile de la RDC qui l'a dit lors de son point de presse tenu hier ici à Kinshasa. C'est à la suite de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. On écoute Christopher Ngoï Mutamba, coordonnateur de cette structure citoyenne, dans cet extrait proposé par Étienne Lissumbu.
Dans cet ordre d'idées, nous félicitons la bancarisation des frais judiciaires et encourageons la traque des magistrats véreux qui confondent allègrement les droits des citoyens avec le droit de leur poche. Nous félicitons aussi la décision de n'envoyer désormais en prison que des condamnés en justice et non plus de simples suspects ou prévenus, car les magistrats trouvent encore toutes sortes de superfuges pour contrecarrer les actions salutaires du ministre d'État, mais se heurteront toujours à la résistance de la société civile à RDC. La société civile à RDC déplore les morts de trop. Une fois de plus, fauchés lors de la récente tentative d'évasion au CPRK, mieux connu sous le nom de prison centrale de Makala. Elle partage la douleur des familles ainsi éplorées et invite les autorités compétentes, de concert avec les organisations des droits de l'homme, à faire toute la lumière sur cet incident malheureux afin que les justes responsabilités soient établies sans complaisance.
Merci de nous recevoir dans la province du Tanganyika. Ici, malgré les problèmes qui se posent au niveau de la centrale hydroélectrique de Bendera, la SNEL rassure la population de sa détermination de la desservir en énergie électrique. Propos du chef de division en charge de la production et du transport du courant à Bendera, hier à Kalemi, au cours d'une conférence de presse. Marcel Sagali-Kaité précise que cette centrale est défectueuse. Elle date de l'époque coloniale. Paul Mounanga.
Les pannes qui interviennent au niveau de la centrale de Bendera sont récurrentes. La dernière panne en date a plongé la ville de Kalemi et ses environs dans les noirs pendant 10 jours. Pour l'assistant technique de la SNEL à la division en charge de la production et du transport du courant à Bendera, cette centrale hydroélectrique a été mise en service en juillet 1959, ce qui explique la vétusté des matériels. Cependant, André Kaïté rassure la population que la SNEL est déterminée à desservir la population en énergie électrique à travers une maintenance préventive et curative de la centrale de Bendera.
Au niveau de la centrale de Bendera, nous avons 2 machines et les 2 groupes sont obsolètes. Ce que nous devons tenir d'abord, ce sont 2 machines qui ont dépassé leur durée de vie. Alors, si ça tient encore aujourd'hui, c'est grâce à la politique de la maintenance. Par an, nous devons arrêter ces groupes-là 4 fois.
Malgré ces difficultés, Marcel Sagali-Kaïté, chef de division en charge de la production et du transport du courant à Bendera, rappelle que le projet de réhabilitation, modernisation et extension de la centrale de Bendera est en cours et il est exécuté par l'entreprise Malta Forest. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle, l'ingénieur Bébé Tongoï a été proclamé lauréat de la 13e édition africaine et 8e édition congolaise du prix Orange de l'entrepreneur social Afrique et Moyen-Orient Poésam 2024 grâce à son projet de logette électronique informatisée et connectée. C'était ce vendredi au cours d'une cérémonie organisée à l'amphithéâtre des fleuves Congo Hôtel ici à Kinshasa sous les auspices de la société de la téléphonie mobile Orange RDC. Il a empoché une cagnotte de 16 800 000 francs congolais. Le directeur général d'Orange RDC Ben Tchek Aïdara s'est réjoui des résultats de ce concours qui démontre, selon lui, l'engagement de la société Orange de soutenir l'égalité des chances de la jeunesse congolaise et africaine.
Actualité internationale.
Ce samedi 7 septembre, près de 24 millions d'électeurs algériens sont appelés à participer à une élection présidentielle anticipée où le président sortant Abdelmadjid Tebboune brigue un second mandat face à deux opposants. Le futur chef d'État sera chargé de gouverner un pays de 45 millions d'habitants, premier exportateur des gaz naturels d'Afrique, troisième puissance économique du continent et le plus vaste en superficie. Mais l'enjeu principal de ce scrutin reste les taux de participation. La jeunesse et la population se sentent désabusées.
L'invité.
La 9e édition du Forum Chine-Afrique s'est clôturée ce vendredi. Une édition autour du thème « Travaillons ensemble pour promouvoir la modernisation et construire une communauté des destins sino-africains de haut niveau ». Le chef de l'État congolais, accompagné de quelques ministres des secteurs de l'économie et du développement, ils ont tous pris part à ces assises. Nous recevons Shaoui Zhang, journaliste au desk français de la télévision chinoise CGTN. Elle s'est entretenue avec Jocelyne Moussaoponde à l'ouverture de cette rencontre. Suivez.
Shaoui Zhang, bonjour.
Bonjour Jocelyne, bonjour depuis Pékin, la capitale chinoise.
Quelle est l'importance de ces assises et quelle est la particularité de cette 9e édition?
D'abord, il s'agit d'un sommet qui relie la Chine et l'Afrique, donc moment pour célébrer cette amitié. Et c'est également la plus grande manifestation diplomatique organisée par la Chine ces dernières années et en même temps avec la participation du plus grand nombre de dirigeants étrangers. Il faut également qu'on fasse attention à cette relation entre la Chine et la RDC, puisque il faut dire que c'était à 10h le 2 septembre que le président chinois a rencontré le président de la République démocratique du Congo au Grand Palais du Peuple à Pékin, marquant la première activité bilatérale avec un dirigeant étranger participant au sommet. Donc, cela marque le début du sommet de forum sur la coopération sino-africaine de 2024 pour le président chinois Xi Jinping. Et là, effectivement, cette fois-ci, c'était avec la RDC. Donc, je pense que ça revêt quand même une signification de l'importance que la Chine attache à la RDC.
Et pour ce qui est du président Félix Antoine Tshisekedi, le président congolais, qui est là sur place avec quelques membres de son gouvernement, c'est sa troisième visite en Chine en pratiquement une année. Qu'est-ce que cela représente pour la République populaire de Chine?
Cela représente pour la République populaire de Chine que la Chine déjà devient de plus en plus attirant pour la RDC et vice-versa, puisque du côté de la Chine, la RDC revêt une très grande importance, non seulement par le naturel, par son marché potentiel énorme dans l'électricité, et aussi par son expertise, par ses particularités culturelles, et aussi par des années de confiance qui a été noué entre la Chine et la RDC. Et d'ailleurs, il faut quand même souligner que depuis quelques années, la Chine accroît ses investissements en RDC. Par exemple, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé au premier trimestre de cette année, l'investissement en Chine a été le plus en RDC qu'à n'importe quel pays en Afrique.
En dehors des mines, en dehors du numérique, il y a aussi les secteurs congolais de l'agriculture qui intéressent la Chine et qui en ce moment demandent des produits tels que les piments, tels que l'huile de palme.
Le marché chinois est tellement grand que, en effet, le marché a la capacité d'absorber tout de suite une grande quantité et un grand volume. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est non seulement au niveau du stock, non seulement au niveau d'approvisionnement de la part de la RDC, c'est peut-être aussi quelque chose qui va représenter davantage d'opportunités à la RDC dans aussi le développement non seulement l'agriculture mais aussi d'autres industries qui sont autour de l'agriculture. Par exemple, l'industrie de l'emballage, de l'étiquetage. On voit aujourd'hui ce besoin palpable du côté de la RDC et peut-être que les entreprises chinoises vont pouvoir fournir des solutions en lien avec la RDC.
Et en dehors de la RDC, quels sont les autres pays africains qui sont aussi présents à cette 9e édition du Forum Chine-Afrique?
Eh bien, pratiquement tous les pays africains, soit le chef d'État, soit un représentant du chef d'État, tous ces pays, chaque pays trouve son compte dans sa coopération avec la Chine. Il y a tellement de différentes potentialités de voir cette possibilité avec 1,4 milliard de personnes que représente le marché chinois. Et vice-versa, ce que la Chine peut fournir à un pays d'Afrique en pleine voie de développement et en pleine croissance, qui ont besoin de davantage de technologies, de formation professionnelle, d'intelligence artificielle, le besoin du tourisme aussi, ces secteurs d'immobilier, dans l'investissement, les réseaux de l'eau, les réseaux d'approvisionnement d'électricité, les réseaux d'infrastructures. Donc on voit bien que la Chine n'est pas un pays développé. La Chine est un pays en développement et qui venait de sortir depuis pas longtemps de la pauvreté. Donc c'est pour ça que la Chine aurait peut-être davantage d'expérience
à partager avec les pays africains. Des expériences
récentes à partager avec un pays en Afrique.
Shanwei Zhang, merci d'avoir échangé avec nous.
Merci Jocelyne.
Voilà qui met fin à cette édition du journal, coordonnée par Jude Mister Bilanda et mise en onde par Alain Goy. À la présentation, Grâce Amzati Masanzi. Merci pour votre sympathique attention.